Bondy Blog Café.
www.bondybloccentre.fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Bondy Blog Centre Café en direct depuis les studios de Radio Campus en ce lundi 18 février de l'année 2019. Cette émission a été enregistrée au préalable, elle n'est pas en direct. Alors cette émission elle va être menée dans un format assez particulier, c'est la première édition d'une suite d'émissions qui viendront dans les semaines à venir avec des slameurs et slameuses qui viendront interpréter leurs textes à l'antenne et nous ferons le lien entre leur création artistique et les créations de l'actualité qui ne cesse justement de nous émouvoir en même temps qu'elle nous informe. Pour cette émission, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alicia, elle est coordinatrice en économie sociale et solidaire et elle est slameuse. C'est elle qui ouvrira le bal. Il y a également Al Pacina qui est en formation d'éducatrice spécialisée. Elle nous fera un slam dont je ne dévoilerai pas le titre, je le connaissais, j'ai failli le faire. Voilà. Il y aura également Design, il est étudiant en histoire de l'art mais aussi en droit dans la ville tourangelle, un petit peu plus à l'ouest, à 120 km d'Orléans. On salue nos amis Tourangeaux-Tourangelles. Et puis il y a Younes, il est en formation pour être conseiller en insertion professionnelle et il nous fera également un slam. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très ouais, bien. Tranquille.
Bon. Alors, je vous ai présenté succinctement. Est-ce que vous pourriez, on va faire un tour de table où chacun va nous dire, ça c'est une question que je pose souvent à mes invités parce qu'on est en France, Astérix, Obélix, vous connaissez ?
Oui,
vous voyez, puis après à chaque fois Obélix il veut prendre la potion magique, on lui dit non, tu es tombé dedans quand t'étais petit. Alors ma question c'est comment est-ce que vous êtes tombé dans le slam, Younes?
D'accord, bonjour. Le slam, depuis tout petit, j'écrivais, j'adorais écrire. Et puis un jour j'ai rencontré des slameurs et j'ai découvert cet univers. Donc ils m'ont invité sur scène, j'ai fait ma première scène où je tremblais, je me rappelle. Et puis petit à petit, j'aimais trop monter sur scène et jusqu'à aujourd'hui.
Bonsoir, bonjour pour tous ceux qui nous reçoivent. Donc moi j'ai découvert le slam, j'étais au lycée et depuis lors je suis dans le slam. Je suis tombé dans cette marmite ou cette casserole, on ne sait pas trop ce que c'est mais je suis à l'intérieur depuis un bon moment aussi.
Et moi, c'est Alicia, donc bonjour à tous. Je suis tombée dans le slam il n'y a pas si longtemps, en 2017. Avant, j'écris depuis 2017. Et j'ai été, je connaissais Grand Corps Malade, etc. Mais j'étais plutôt attirée par la poésie. Mais le slam, c'est une manière de faire vivre la poésie à l'oral. Et donc, je suis tombée dedans en 2017.
Bonsoir à tous. Moi, c'est Al Pacina. J'écris depuis un bon moment, depuis l'école primaire. J'écrivais des poésies. Ensuite, au collège, je me suis mise au rap. J'ai continué pendant mon lycée. Et quand je suis arrivée en formation d'éducatrice spécialisée, on a eu l'occasion de faire des ateliers. Et j'ai participé à un atelier slam. Ça m'intéressait parce que c'était de l'écriture. Et en fait, j'ai découvert la technique du slam. Et j'ai découvert que, en fait, inconsciemment, sans le savoir, je faisais déjà du slam. Je respectais en fait ces règles qui sont propres au slam et on m'a invité à déclamer pour la première fois à la Java Pop pendant la scène slam qui se déroule le dernier mercredi du mois là-bas. Et puis j'ai rencontré du monde un peu par-ci par-là et puis je me suis mise de plus en plus dedans.
Alors c'est quoi les règles du slam ?
Alors il y en a 20. Après, je les connais pas toutes par cœur, mais il y en a qui sont un peu principales. Peut-être que Design saura mieux nous en parler que moi.
Alors peut-être pas les 20 règles, mais
après la question, pour moi la question est peut-être pas bien articulée parce qu'en fait le slam présenté comme ça en tant qu'art qui a des règles, moi je dirais que c'est un art qui n'a pas de règles parce que la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règles comme on dit souvent. Après, ce qu'il faut faire en slam, c'est peut-être respecter les règles de, on va dire, de syntaxe, hein, pour pouvoir bien présenter donc sur le fond et dans, en fait, sur la forme et dans le fond, voilà. Sinon, en dehors de ça, c'est dire ses émotions, c'est déclamer ce qu'on ressent sans forcément des règles de versification, etc. Donc, en ce qui concerne les règles de slam, moi, je pourrais pas les énumérer parce que j'écris sans règles, j'écris comme mon cœur me le dicte, c'est tout.
Alors, Alicia Al Pacina, vous faisiez de la poésie. Est-ce qu'il y avait trop de contraintes dans la poésie ? Et c'est pour ça que vous vous êtes tournée vers le slam.
La poésie, ça peut être libre, ça peut être des vers libres ou des rimes. Donc moi, je fais des fois des textes qui riment et des fois des textes en vers libres, ça dépend. Mais je préfère que ça rime pour la musicalité, mettre des allitérations aussi, des consonances qui reviennent. J'aime bien jouer avec les sonorités et les mots.
Ouais, c'est un peu pareil, j'aimais bien tout ce qui était rime, et puis après la contrainte c'est aussi des fois ce qui donne le plaisir en fait d'écrire, parce que si on écrit des fois de manière très libre, on s'y retrouve pas dans la forme de ce qu'on écrit, et puis on se perd même dans le fond, on sait plus trop ce qu'on dit parce qu'on part un peu partout, et quand on se fixe des fois quelques contraintes, c'est un défi aussi,
c'est vrai.
Je pense que ça fait partie du plaisir de l'écriture, c'est de relever des défis, et puis ouais, pareil, j'aimais bien le nombre de syllabes, ouais. Pour essayer de trouver des mots. C'était une recherche de vocabulaire aussi, hein. C'est assez intéressant, c'est enrichissant pour ça.
C'est vrai.
Alors, Design en a parlé, il a parlé de la versification, mais la poésie peut être prosaïque. Alors moi, je suis de la vieille école, mais par exemple, je suis fan de Jacques Prévert, Boris Vian, qui faisait de la poésie sans forcément faire de vers. Question très compliquée à laquelle vous allez essayer de me répondre chacun. C'est quoi la poésie ?
Ah là là, sujet compliqué. Hein.
Non, je sais pas qui veut répondre.
Vas-y, Younes, lance-toi.
Je sais pas trop si ma réponse est concrète et juste. La poésie, c'est l'écriture tout d'abord, qui est composée de rimes et beaucoup de règles. Y compris j'ai oublié. Bon, bref.
T'as oublié le terme.
Oui, c'est ça, c'est parti. Sinon, il y a beaucoup de règles dans la poésie, quand même. Elle est très bien encadrée. Comparaison au slam, qui est encadré, mais je dirais plus sur scène que sur l'écriture. C'est pour laisser aussi la place aux autres aussi de s'exprimer derrière.
Bah après, je suis assez d'accord avec toi. Ce qu'on retrouve, en fait, la poésie, en fait, le problème, je pense, c'est que quand on entend le mot poésie, on pense tout de suite à la poésie qu'on apprenait à l'école et celle qu'on nous a un peu forcé à lire pendant nos études et qui nous plaisait pas toujours. Et celle-là, en fait, justement, c'était celle qui avait beaucoup de règles. Et puis à l'école, on nous apprend aussi ces règles de la poésie. Hein, ça fait partie des programmes de français. Je sais pas si, enfin, ça faisait partie, en tout cas. Je sais pas si c'est encore le cas. Mais voilà, on apprend ça, en tout cas, comme quelque chose de vraiment très structuré et qui doit répondre à des règles très précises dans l'écriture même, au-delà de la diction, comparé justement, comme disait Younes, au slam, où on va être plus dans, entre guillemets, la règle qui permet la place de l'autre sur scène, mais pas dans l'écriture.
Tu disais, Al Pacina, qu'on joue avec ces règles aussi, on les utilise. Donc au final, fin, pour ma part, ça m'inspire aussi cet aspect contrainte. Ben, je m'inspire aussi des classiques pour les retravailler, mais de manière moderne. Mais... je trouve que les contraintes, comme tu disais, on peut jouer avec et c'est un défi.
Après, si on peut prendre un point de vue ou un angle un peu plus large sur la poésie, pour moi, c'est un sentiment, hein, c'est un sentiment un peu comme l'amour, parce que même dans l'art graphique, donc on va dire les tableaux, il y a toujours de la poésie. En fait, c'est ce qui parle au cœur. C'est pas forcément en termes d'écriture, c'est pas forcément en termes de texte dit, mais c'est aussi ce sentiment-là qui émane de notre sensibilité. Et voilà, donc d'un angle, d'un point de vue général, en dehors de tout ce que les autres ont déjà pu aborder ici, moi je pourrais ajouter ça, que la poésie, c'est ce qui parle au cœur, voilà, ce qui parle au cœur.
Et c'est une manière de s'exprimer aussi. Pour moi, c'est un des premiers effets de la poésie, c'est que ça permet de sortir nos sentiments, nos émotions, et ça permet de s'exprimer et de le partager.
Vous avez l'air d'être d'accord avec cette dernière définition, hein. Ça ne se limite pas à l'écriture.
Oui. Bien sûr.
D'accord, très bien. On peut la retrouver, par exemple, dans les tableaux et pourquoi pas dans la musique.
Voilà, dans la danse, en fait. C'est poétique, la danse, voilà, c'est ça.
Même dans le slam, on pourrait dire que c'est une forme de poésie, au final.
Ouais, c'est clair que le slam, c'est une sorte de poésie.
Merci pour ces précisions. Avec, alors, si je vous ai bien écouté, une spécificité, c'est que le slam, ça se fait vivre, avec un public, en fait.
Oui, bon, en fait,
poésie, ça reste figé. Enfin, j'allais dire l'aspect littéraire de la poésie. Ouais. Un poème, en fait, voilà, pas la poésie, mais un poème, c'est écrit dans un livre. Alors qu'un slam, ça se fait vivre en public. Hein.
Effectivement, en fait. Bon, le slam, c'est déjà un art oratoire, et c'est un art qui consiste à être déclamé, en fait. Quand on parle de slam, en fait, on vise la déclamation. C'est la présentation de son texte devant un auditoire. Et ça ne se limite pas à l'écriture, parce qu'il y en a qui font par exemple des slams en improvisation, qui n'ont pas de support texte. Et donc le slam, c'est ça, c'est ce texte-là qui est déclamé devant un auditoire. C'est pas un texte juste à garder dans son journal intime. Il faut bien présenter et faire partager avec.
Et il est déclamé avec toute notre âme, justement. Voilà. Oui.
Eh bien, tu gardes la parole, Alicia. Je coupe les autres micros.
Je prends la main.
Voilà, tu prends la main.
Orléans relie d'or les rêves éveillés, des vies venues de villes diverses, du Dauphiné à la terre du Dode, sourit à leur destin semblable. À nul autre pareil, leur voix, avant en veille, vibre à l'aventure vouée aux valeurs enviables. Voguant à vive allure, vers la voie lactée en balade, libre, vivace, voix ouverte au vent qui berce, vient-elle, au-delà des mots, à la magie d'Orléans, s'émerveiller. J'ai jeté mon cœur par la fenêtre, une mise à nu, condition pour renaître. Notre échange est limpide, loin des inepties insipides. Nos âmes se regardent, étonnées, leurs propres reflets dans le miroir satiné. On écarquille les yeux au bord du précipice, un grand plongeon pour mieux lancer le feu d'artifice. Nos mystères un peu plus dévoilés, notre compréhension un peu plus installée. Nous renouvelons le pacte tacite de bonté, celui que nous scellons selon nos qualités. Connaître nos plaies pour mieux les panser, guérir nos blessures avec les pensées. Pas sûr qu'il vaille mieux des failles sans travail qu'un roc dur sous armure. De toute façon, on a tous des fissures. L'atout facile pour nous soigner sans trop saigner. Nous nous soutenons face au tout comme des sœurs.
Merci. Qu'est-ce qu'on fait quand un slammeur vient de faire son slam ?
Claque les doigts.
Faut que ça claque. Marche. Et on va rentrer, après ce premier texte, dans cette revue de presse de notre émission, une revue de presse féminine que j'ai été surpris de trouver en fait en kiosque, des journaux féminins très variés. Il y a beaucoup de titres en fait, là je n'en ai que deux sous les yeux, Elle et Cosmopolitain. Je pourrais en citer plein d'autres, Biba, je ne sais plus d'ailleurs, enfin, j'en ai vu plein, il y en avait au moins une vingtaine. Et concernant la presse masculine, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on tombe tout de suite dans la presse spécialisée autour du sport, des montres, et puis quoi d'autre encore, les sports, les montres, et les voitures aussi, qui intéressent beaucoup les hommes. Et dans cette presse féminine, on voit qu'il y a des sujets qui sont, on va dire, féminins, tels que la mode, le maquillage, et des sujets qui concernent aussi bien les hommes et les femmes, puisqu'il s'agit d'amour et de sexualité. Et il m'a semblé, alors ce n'est qu'une impression, je n'ai pas mené vraiment d'enquête, mais il m'a semblé que les magazines féminins avaient moins de tabous pour traiter de ces questions qui concernent aussi bien les hommes et les femmes. Voilà, je vous donne par exemple Cosmopolitain, sexe, au bout d'un an, 3 ans, 10 ans, qu'est-ce que ça change ? Et puis Elle, sondage Elle IFOP, les Françaises et le sexe, les chiffres qui surprennent. Je vais d'ailleurs vous en donner quelques-uns, issus de ce sondage. Concernant les femmes, la consommation de la pornographie, elles sont désormais 47% à en avoir déjà visionné, contre seulement 4% en 2006. Donc les chiffres ont été multipliés par 10 en une dizaine d'années. Mais cette fois-ci, ce sont les plus jeunes, la génération YouPorn, qui tire la locomotive avec 59% des jeunes femmes de moins de 30 ans. Plus marquant encore, la véritable explosion de l'utilisation de sex toys. 43% des 18-69 ans en ont déjà utilisé, contre 14% en 2009. Ce chiffre est très étonnant, constate François Krauss. Peu de pratiques ont triplé de cette façon en 10 ans. Un peu plus loin dans l'article, on voit que elles en viennent à parler de la masturbation. Tous ces pas vers un plaisir individuel expliquent sûrement le fait que 78% des femmes ont le sentiment de connaître toutes leurs zones érogènes. Mais attention, derrière ce chiffre, seulement 20% d'entre elles disent les connaître tout à fait. Un chiffre qui grimpe à 41% chez les bi et homosexuels, contre 58% plutôt bien. Je vais dériver vers un autre extrait de ce même article, où on voit un peu plus tard un sujet sur l'auto-exploration, l'avenir de la femme. Notre sondage pointe un phénomène, les femmes sont de plus en plus adeptes de la masturbation et de l'usage de sex toys. celle qui rappelle dans ses stories que le clitoris n'a été disséqué qu'en 98. Donc elle parle de Julia Pietri, voilà. Julia Pietri qui explique que le clitoris a été très peu étudié par la science. Il est absent de quasiment tous les manuels de biologie alors que c'est un organe complexe, interne à 90%, long de parfois 15 cm et qui en sert le vagin. Voilà, disséqué en 98, échographié en 2008. Quel retard de la science. Je sais pas, des commentaires sur ces informations.
Ce qui est bien, c'est qu'on fait de plus en plus de recherches dessus, donc c'est que ça se démocratise petit à petit.
Oui.
Il y a même un musée du clitoris qui a ouvert en Bretagne, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Donc voilà, petit à petit, les mentalités changent et on s'intéresse à ces petits organes cachés et mystérieux.
Après, moi, il y a quelque chose dans les chiffres qui me questionne. Quand tu parlais, par exemple, du visionnage de pornographie chez les femmes, c'est le nombre de femmes qui ont accepté de dire oui. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait... Enfin, je me questionne. Est-ce que ça voulait dire qu'il y avait vraiment beaucoup moins de femmes qui regardaient, ou est-ce que ça voulait dire que c'était moins assumé?
C'était pas censuré, elles s'autocensuraient.
Voilà, je pense qu'il y avait de ça, parce que aussi l'évolution de la société, etc. Enfin, on regarde même le culte du corps, etc. Enfin, quand on regarde les médias et la télé, en fait, il suffit de regarder la publicité, tout est vendu avec une femme dénudée, ou etc. Enfin, il y a beaucoup... Enfin, voilà, l'image du corps de la femme est quand même beaucoup plus montré, voire posté en atout pour vendre et d'une manière générale dans la société qu'avant quand même, je pense, tout ce qui était érotique, quand on regarde n'importe quel film, pas film érotique, mais des films qui passaient à la télé d'il y a 20 ans, une femme, quand elle était sexy, elle n'était pas dite sexy, elle n'était pas du tout habillée de la même manière que maintenant, elle était beaucoup plus habillée. Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a quand même une liberté peut-être qui s'installe aussi de dire oui, je regarde des films porno, quoi, qui n'existaient peut-être beaucoup moins avant.
Bon, en fait, moi, ce que je déplore dans les chiffres, en fait, je ne sais pas trop... ce qui en est pour la parité, en fait, on va dire homme-femme, dans la population mondiale. Mais je sais que globalement, ce sont les femmes qui sont un peu plus nombreuses que les hommes. Et je déplore quand même le fait que les femmes se renferment vers elles-mêmes, en fait, sur elles-mêmes, se renferment sur elles-mêmes et essaient de s'auto-découvrir ou s'auto... Enfin, voilà, en fait, avec tout ce qu'il y a comme... comme échange, hein, entre sexes, voilà, entre hommes et femmes, c'est quand même une connaissance de l'autre, c'est une connaissance non seulement de soi mais de l'autre. Donc les femmes, aujourd'hui, on parle de plus de femmes qui ont accès à leurs propres attouchements, etc. Mais ce serait bien de découvrir d'autres expériences avec les hommes, en fait, comme ça se fait naturellement, parce que c'est quand même un fait naturel, c'est quand même quelque chose d'originel, en fait. C'est quelque chose d'originel, donc que les femmes aujourd'hui... Je ne sais pas si cet article va dans le sens d'une plainte ou juste dénoncer ça, mais moi, je trouve que les femmes auraient plus d'intérêt à retourner vers les...
Non, enfin, pour moi, je ne le vois pas du tout comme une plainte, mais justement comme l'accès à la connaissance de ce qui était tu avant. Donc il y a énormément de recherches, même au niveau scientifique, sur le sexe masculin. En pharmacie, on trouve du Viagra, on trouve de tout. Et pour les femmes, il n'y a aucun sujet scientifique sérieux. Enfin, c'est rare qu'il y ait des publications scientifiques sur le vagin, le clitoris, etc. Alors que sur les hommes, on a déjà énormément de connaissances qu'il n'y a pas du tout au niveau féminin. Bah, comme il le disait, le clitoris, ça a été disséqué dans les années 90. Alors que ça existe depuis toujours. Quoi.
Bon, mais là, on va parler de clitoris, on dit quand même, il y a quelque chose qui est important dans ce qui est dit, c'est que les femmes regardent beaucoup de pornographie et... achète ou consomme beaucoup de sex toys. Bon, après, sex toys, c'est quand même... moi, quand j'entends sex toys, je pense à un sexe masculin, par exemple, que les femmes achètent pour se faire plaisir.
Pas que, il y en a plein, hein,
bon,
y a plein de sortes différentes.
Je dis ce à quoi moi je pense. Je ne sais pas trop la panoplie qui s'offre, mais c'est ce que moi je sais. Bon, en fait, après, ce serait un peu plus normal, à mon sens, de retourner vers nos humanités classiques Et voilà.
Alors, je ne sais pas, parce que en préparant cette émission, donc, j'ai choisi de parler du clitoris. Aussi, il y a une série dont je ne parle pas, mais qui montre que les femmes peuvent très bien se passer des hommes, notamment les sex toys. Le clitoris aussi, qui est l'objet des excisions. Les femmes, qui, de nombreuses femmes qui en sont
surtout
privées.
En Afrique, ouais.
Et donc, de ce plaisir. On va en revenir à l'exploration de soi. On est juste dans une quête du plaisir. Alors, solitaire ou partagé, justement, c'est la question qu'on peut se poser. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard aussi, justement, sur la sexualité. L'exploration de soi, est-elle nécessaire en tant que slammer, par exemple ? Alors, je... Attention ! Est-ce que vous proposez... Est-ce que vous avez la main dans le pantalon ou sous la jupe quand vous écrivez ? Non, c'est pas ça que la question que je vous pose. Non, non. L'exploration de soi...
Je pense que oui.
Se connaître, oui, Younes.
Oui, se connaître, oui. Par exemple, tous les textes qu'on écrit, je pense qu'ils sont un petit peu influencés par rapport à notre vie, de nos quotidiens. Connaître soi-même, je pense que c'est très, très important. Et il y en a même certains qui se découvrent à travers l'écriture. Donc, ils ne se connaissaient pas avant. Donc, quand ils commencent à écrire... Bah, ils commencent à se lâcher, comme on dit, l'écriture automatique. Donc, il écrit, et après, il voit ce qu'il a écrit, il réalise qu'il a beaucoup d'atouts, beaucoup de choses en lui.
Je suis d'accord. Ouais, et le slam, c'est aussi une manière de se découvrir, de poser les mots sur le papier pour se réapproprier, comme on parlait, se réapproprier son corps, bah, c'est se réapproprier ses émotions aussi. Mm.
Comme tu disais, Younes, enfin, moi, je suis beaucoup d'accord avec le fait que tu dis qu'on apprend même à se connaître en écrivant. Mmh. Par exemple, moi, je sais que je ne retouche jamais mes écrits parce que, justement, quand j'écris, ça vient de manière spontanée. Moi, je vais appeler ça plutôt que l'écriture automatique, je vais dire l'écriture spontanée parce que, pour moi, il va y avoir... Je ne vais pas chercher l'inspiration dans quelque chose, mais à un moment, je vais être dans la rue ou n'importe, et il va y avoir un mot qui me vient ou une idée et ça va faire naître des émotions en moi, en fait. Et justement, c'est de là que je commence à écrire. Et des fois, bah, on apprend ce qu'on pense sur ce sujet-là, alors que dans notre quotidien, finalement, on l'oublie. Ou il y a des choses qu'on banalise ou auxquelles on ne pense pas parce qu'on est pris dans notre train-train quotidien, entre guillemets. Et puis, bah, ça nous amène à nous re-questionner. Et voilà, avoir notre pensée, en fait, à la voir nous-mêmes.
Et c'est un moment de pause. On se pose sur oh, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois là, hop, je l'écris. Et
ouais. Même quand on déclame, en fait, aussi beaucoup. Oui. Parce que du coup, quand on l'écrit, bah, voilà, on a mis des mots. Mais quand on le dit, bah, on relâche nos émotions et on les partage avec l'autre. Et on sent, en fait, nous-mêmes, notre manière de déclamer est influencée, en fait, par nos émotions. Et c'est là aussi où on se dit, ah bah tiens, moi, c'est telle émotion que je ressens quand j'écris ça, quand je pense ça. C'est ça que ça me renvoie.
Oui, par rapport à la déclamation, quand tu dis que quand on le déclame sur scène, ben, sûrement qu'on est... majoritairement, on n'est pas le même sur scène que qu'on est au quotidien. Et sur scène, on se découvre autrement. On arrive bien à extérioriser ce qu'on a vraiment, vraiment envie de dire. Donc, c'est une manière aussi d'explorer son soi.
Oui, moi, par contre, je dirais que... Est-ce qu'avec tout ce débat qui tourne autour de la découverte de soi et tout, est-ce que c'est pas... C'est une question que je pose, hein, même aux auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que c'est pas une façon implicite d'avouer qu'aujourd'hui, on n'est plus maître de soi, ou on a perdu tout contrôle de notre propre vécu, de notre propre chair, de notre propre corps, de notre propre manière de penser? Donc c'est aussi ça, parce que si aujourd'hui on parle de découverte de soi, est-ce à dire que les autres nous connaissent mieux que nous-mêmes? Donc moi je dirais que non, moi je suis maître de moi, et s'il y a quelque chose, ce serait à moi de mieux informer les autres sur ce que je suis, et non le contraire. Donc voilà, après on va peut-être un peu découler sur autre chose, on essaie de s'éloigner, mais moi je trouve que c'est quand même un sujet qui porte à ce qu'on s'interroge vraiment sur le fait de savoir si aujourd'hui, actuellement, on est encore maître de nos propres désirs, maître de nos propres sentiments, maître de nos propres manières de penser. Voilà.
je vais reciter l'extrait de l'article. Tous ces pas vers un plaisir individuel expliquent sûrement le fait que 78% des femmes ont le sentiment de connaître toutes leurs zones érogènes. Mais attention, derrière ce chiffre, seulement 20% d'entre elles disent les connaître tout à fait. C'est-à-dire que c'est déjà une connaissance de soi pour pouvoir proposer à l'autre, dire tiens, bah là oui, là non, plutôt par ici.
Comme
non,
ça.
de se connaître soi aussi pour mieux vivre, mieux partager l'amour. On va en parler un petit peu tout à l'heure aussi de cette injonction qui peuvent être faites des fois à ce repli sur soi-même aussi, son bien-être personnel et au détriment du bien-être collectif. Malheureusement, dans notre société, on peut en parler aussi d'ailleurs parce qu'on a parlé de la pornographie du côté des femmes, mais que ce soit du côté des femmes ou des hommes. Les hommes qui regardent la pornographie aussi, c'est pour un plaisir individuel et personnel, hein. Il faut pas s'en cacher. Et c'était beaucoup moins tabou pour un homme de le dire que pour une femme. Enfin, peut-être que je me trompe, je sais pas, Younes.
Oui et non, même si je suis pas tout à fait d'accord. Aujourd'hui, dans notre société et partout dans le monde, hein, dans la société du monde, un homme qui regarde de la pornographie, on va le dire, c'est un pervers, entre guillemets. Mais une femme qui regarde de la pornographie, on va pas dire que c'est un pervers ou perverse, on va dire autre chose.
On va dire que c'est une salope.
Ben, une salope, voilà.
Ah bon ? Ah oui, ah d'accord. Ouais. Ah oui.
C'est vraiment, dans la société, c'est comme ça, en fait. Donc, c'est malheureusement.
Il y a toujours une évolution qui vise à...
Certes.
À être négative envers l'autre. Avant, c'était peut-être que nous, aujourd'hui, on a cette... Enfin, les femmes ont cette volonté d'affirmer un peu, entre guillemets, ce droit. Il y a quelque chose qui est quand même d'actualité aujourd'hui, c'est je lève le poing et j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit d'avoir une liberté sexuelle.
Moi, je ne voyais pas comme ça. Je pensais que tout le monde était obsédé, en fait, les hommes et les femmes.
Non,
après,
en fait...
je pense qu'on a tous une part en nous. Non, mais on a tous
après,
une part en nous.
Je
ne
vois pas
ça,
pourquoi
mais...
parler de perversion ou de
Non, moi, parce
que il y a le lien avec l'actualité aussi. L'homme, avant, était vu comme libre et aujourd'hui, avec des choses qui se passent, la question du viol, etc., plein de choses où la vision de la sexualité chez pour l'homme, enfin voilà, et le lien à la pornographie aussi, enfin quand on regarde chez les jeunes, chez les adolescents, la vision de la femme et de l'acte sexuel, enfin on entend des choses des fois même,
c'est un objet,
voilà, et puis et ça questionne aussi parce que est-ce que du coup on peut dire vraiment l'homme c'est un pervers ou pas, parce que ce qui est montré dans ces films des fois, bah c'est de l'ordre de la domination, etc. Et enfin, je vais dire une chose en entraînant une autre. On crée en fait ces choses-là de par les films et de par ce qu'on montre. On crée une identité culture à celui qui regarde, en fait. On crée une identité à celui qui va regarder parce qu'on va dire qu'il cautionne. Et puis même, en fait, on crée des attitudes, en fait, chez les personnes qui regardent. Par exemple, on voit beaucoup de collégiens qui regardent des films porno et qui après accostent les filles en disant « Ouais, tu me suces » ou ouais, des vulgarités comme ça. Et pour eux, ils voient pas où est le problème parce qu'en fait, c'est ce qu'on leur montre aussi. Il y a beaucoup de ça dans l'éducation sexuelle, c'est ce qu'on montre aussi. Et du coup, l'image qu'on a après.
Alors, je vais rebondir sur un autre article que j'ai trouvé sur prostitutionetsociété.fr, le site de la revue trimestrielle du mouvement d'Uni France, un mouvement qui lutte contre la prostitution. Porno, même Rocco Siffredi tire le signal d'alarme. S'exprimant dans la presse, l'ex-acteur porno dit ne pas renier la pornographie, mais s'alarmer du fait qu'elle soit désormais à portée de clic pour des gamins de 12 ou 13 ans. Dès l'école primaire, explique-t-il, il faudrait que des sexologues ou des personnes habilitées à le faire, il se voit bien prof lui-même, sensibilise les enfants et leur explique que s'ils tombent sur de telles images, c'est juste du cirque, que ça n'a rien à voir avec la sexualité.
D'où l'importance de l'éducation sexuelle dans les écoles pour montrer que voilà, ça c'est pas la réalité, enfin ça peut être la réalité, mais c'est pas la majeure partie de la réalité, et que voilà, d'où l'importance aussi d'éduquer à l'égalité en montrant voilà comment fonctionne le système masculin, comment fonctionne le système féminin, de savoir voilà les différents organes, les différents centres de plaisir, etc.
Moi je vais peut-être ajouter, je dirais à tort ou à raison, que on devrait plutôt prendre le mal à la racine, parce qu'en fait là on est en train de parler d'éducation sexuelle, mais en réalité pour moi, à mon avis, le sens même de la question, c'est vraiment ce culte de l'individualisme, en fait. C'est parce que ça, se connaître soi-même, trouver ses zones de plaisir, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est d'abord pour nourrir son ego, en fait. Alors que l'homme, par nature, est un... Ce qui le distingue de l'animal, d'ailleurs, c'est que c'est un être social et il doit évoluer en société. Donc, un homme ou une femme ne peut pas vivre en marge, en fait. Donc, elle ne peut pas être, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, ne peut pas être seule, se faire plaisir, en fait. C'est quelque chose qui doit être partagé. Et si aujourd'hui il y a de la pornographie,
alors, attendez,
si aujourd'hui il y a
attendez,
beaucoup de choses...
Attendez, mon cher design, je vais vous lire un autre article
encore.
Pour vous parler d'un plaisir bien solitaire, mais qui ne se fait pas tout seul. Alors je l'avais dit, c'est très cru. Hein. 22% des femmes déclarent avoir déjà introduit un doigt dans l'anus de leur partenaire. L'atout prostate. Parlons un peu ici du plaisir masculin. Comme le dévoile notre étude, les femmes sont 22% à avoir déjà introduit un doigt dans l'anus de leur partenaire homme. Ce chiffre est étonnant, constate June, auteur du compte Instagram @jouissance.club, une bible de sex tips suivie par près de 100 000 personnes. Il faut dire que l'orgasme prostatique est extrêmement puissant, au point de pouvoir couper les jambes. Je reçois ainsi beaucoup de questions à ce sujet de femmes qui aimeraient le proposer à leurs copains, mais qui ne savent pas aborder le sujet, et d'hommes qui n'osent pas le demander ou ont peur que cela porte atteinte à leur virilité. Je ne vous donnerai pas quelques règles d'or qu'elle donne, voilà. Plus de plaisir, quitte à écorner un peu le cliché d'une masculinité forcément pénétrante. Voilà peut-être les prémices d'une sexualité qui mise vraiment sur la réciprocité et le donnant-donnant. Je vois Younes
d'autres donnant-donnant
qui met
ça,
la main dans elle. Non, parce que j'en reviens à cette histoire du plaisir partagé ou non.
Chacun fait comme il veut. Hein,
Chacun fait comme il veut.
Si on veut se
mettre
des
évidemment,
pas, c'est...
évidemment, évidemment. Et que ce soit... voilà, c'était le point de vue, j'allais dire, de l'autre côté des hommes.
Dans cet article, moi, je pense qu'il est clairement dit que c'est la femme qui veut faire plaisir ou bien qui veut donner du plaisir à l'homme.
Oui, ou que l'homme se laisse aussi, s'autorise de faire quelque chose qui est dans la société, qui n'est pas...
Il est dit qu'il y a certains hommes qui ne savent pas comment demander à leur partenaire. Enfin...
Ou qui ne s'autorisent pas à ce genre de plaisir parce que c'est tabou et parce que, ah non, je ne me fais pas pénétrer, moi, c'est moi qui pénètre. Et donc ça re-questionne la vision de...
Voilà.
Je vous propose une... Younes, ça va aller, il se remet de ses émotions. C'était choquant ce que j'ai dit ?
Non, du tout.
Non,
du tout.
C'était un article...
C'est écrit, c'est publié.
C'est publié dans Elle. Voilà. On va enchaîner avec un slam de Younes, là tout de suite, maintenant.
Ah d'accord, oui, on va faire un slam. Je vais faire un slam sur égalité en femme. Je fais appel. Je fais appel aux loyaux et loyales, endurants et endurantes, aux citoyens et citoyennes. Je fais appel. Je fais appel à une justice sociale. Il y a un rééquilibrage de balance, car ils... et elles ne veulent rien de spécial, mais surtout ne plus garder le silence. Une discrimination justifiée comme légale. Honte à cette audace et à cette insolence. Messieurs, dames, là où la féminité est absente, il y a guerre de salut. Donc il faut secouer de haut en bas pour que nos problèmes soient résolus. Et ça nous concerne toutes et tous. Et nous responsabilise toutes et tous, c'est pas seulement... Pas seulement ceux qui sont pointus du doigt, ceux qui se disent féministes, mais pas pour avoir les mêmes droits. Il ne paraît pas qu'on ait du courage pour tous les maux, sans exception. Mais parfois, il est préférable de craindre le silence, sans explication. Je ne lutte pas pour le féminisme, non, mais pour les valeurs de la société. Donc je me réclame féministe pour qu'on soit traité, toutes et tous, à égalité, mais surtout pour qu'elles deviennent une réalité. Mais qu'est-ce qu'elles veulent encore? Et c'est une question qui se pose, ou plutôt, mais qu'est-ce qu'on attend encore pour changer enfin les choses?
Merci Younes. Des commentaires sur ce slam?
J'ai plus de mots.
Non, puis après, pour nos éditeurs auditrices aussi, faut le prendre comme une création artistique. Il n'y a pas forcément de commentaires à en faire. Déjà, le temps de digérer ce qu'on vient d'entendre. Merci Younes. C'est un sujet qui t'intéresse en tant qu'homme, l'égalité homme-femme?
Non. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas un sujet à en parler aujourd'hui. Parce que c'est tellement en fait banal aujourd'hui quand on me parle d'égalité homme-femme. Je dis mais pourquoi vous me parlez ça? C'est quelque chose de logique. Donc je vois pas l'intérêt de s'intéresser à ça en fait. Donc pour moi c'est quelque chose de logique.
C'est logique, mais c'est pas répandu comme certes, on le souhaiterait.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc certes, c'est pas tout à fait rétabli dans la société. Donc il y a toujours, même on parle de la société française, hein, y a toujours la domination homme-femme, même professionnellement parlant, ça existe toujours. Mais malheureusement, mais bon.
Non, mais donc dans ton texte, tu dis qu'il faut changer les choses, du coup ça, c'est un peu contradictoire, non ?
Non, mais... non, je le dis sur, dans mon texte, mais genre, moi personnellement, je quand on me parle d'égalité homme-femme, je dis pourquoi vous me parlez de ça ? Genre, pour moi, il n'y a pas de différence entre moi et toi. Tu vois, Alicia.
Oui, ok. Mais c'est dans la société, voilà, tu parlais des salaires qui ne sont pas les mêmes, tu parlais des dominations qui ne sont pas
exactement.
Les mêmes.
Exactement.
C'est une volonté de ne pas avoir à en parler dans le sens où tu voudrais qu'il n'y ait pas besoin d'en parler, en fait.
C'est ça.
Et
c'est...
que pour toi, dans tes relations, tu considères que les hommes et les femmes sont égales, mais le problème, c'est que c'est le système qui entretient la domination homme-femme et l'égalité n'est pas encore là réellement.
Bon, après, on parle de système, mais il existe bien des gens qui ne sont pas d'accord avec, avec l'égalité homme-femme. Est-ce qu'il faut pour autant les diaboliser ou les, voilà, ou les en vouloir parce qu'ils ont cette pensée ? Après, ça peut être discuté sur certains points. On peut avoir une volonté, mais on ne peut pas forcément aboutir à cette égalité homme-femme dans certains cas ou dans des... En fait, dans certains... Je ne parle pas de milieu, par exemple, ou de travail, etc. Mais je parle quand même en tant que physiquement, pour certaines choses, il est évident qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas forcément avoir des métiers d'hommes.
Là, on parle d'égalité des droits, pas d'égalité physique. On parle d'égalité des droits, l'égalité d'avoir le même salaire pour la même fonction, l'égalité pour avoir les mêmes postes, pour les mêmes qualifications. C'est ça, l'égalité des droits, c'est pas l'égalité physique.
Ah, d'accord, parce que c'était égalité homme-femme. Donc, quand c'est défini comme ça, on ne va pas directement dans un sens bien précis, on dit égalité homme-femme. Mais
c'est trop vague.
De nature, l'homme et la femme ne répondent pas aux mêmes.
On a des différences, voilà, physiques.
C'est intéressant du coup parce que c'est peut-être c'est intéressant de se questionner, de se dire justement cette notion d'entre guillemets inégalité ou plutôt différence. Hein, je pense pas que ce soit une inégalité qui soit discriminante, mais plutôt une différence qui peut être un atout du coup pour chacune des parties. Et quand même, on peut se dire que c'est de là d'où naissent quand même en partie ces inégalités de droit. Qui sont, on entend quand même qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont justifiés par ça, hein, de dire que justement, comme tu disais tout à l'heure, métier d'homme ou métier de femme, ou voilà, on ne fait pas les mêmes choses, on ne peut pas faire les mêmes choses. On entend souvent ça et du coup, on essaierait de justifier en fait ces inégalités par ça.
Younes ?
Oui, par rapport au métier, ça fait partie des 18 discriminations par la loi. Qui dit que discrimination du sexe, c'est quelque chose de très dangereux au niveau de la loi. Mais je pense design, comme on disait tous, quand on parle d'égalité en femme, vraiment, première chose qu'on dit, c'est vraiment les droits.
Ben oui, ben en fait, même dans la déclaration, je crois que c'est l'article premier qui dit que tous les hommes naissent égaux en droit. En fait. Donc ça, c'est un fait. Ça, c'est pas comme si on doit remettre ça en cause aujourd'hui. Moi, si j'interviens, c'est pas dans ce sens. C'est dans le sens d'aller un peu plus loin. C'est dans le sens vraiment de pervertir même le problème, de pervertir même la question d'égalité homme-femme. Parce qu'après, on va plus dans des considérations qui sont pas sur le plan juridique, pas sur le plan du droit, mais sur d'autres plans. Et moi, c'est de ça que je suis en train de parler.
Après, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord pour égalité en femme. C'est leur avis, on doit l'accepter quand même. Je trouve que chacun a le droit de s'exprimer et donner son avis. Après, il doit juste pas l'imposer, c'est tout. Quand on essaie de l'imposer, par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple banal, genre un homme qui dit que moi je suis supérieur à une femme, ok, s'il pense comme ça, c'est sa pensée. Mais après, s'il veut l'imposer à une femme, vraiment, là, ça pose un problème, même pour lui au niveau de la loi, donc...
J'ai un prof d'histoire, moi, qui m'avait dit une fois, quand on travaillait sur les droits... Après, bon, c'est assez vague, ça fait quelques années, mais quand on parlait des droits, on disait qu'on avait le droit de penser et on avait le droit de s'exprimer tant que ça ne blesser et ne déranger pas l'autre, en fait. Il y a cette notion-là aussi qui est importante, c'est qu'on a des droits, mais que ces droits, ils sont individuels, mais ils doivent aussi obéir au vivre ensemble. Et en effet, il a le droit de penser qu'il est supérieur à la femme, mais au-delà de l'imposer à l'autre, c'est l'exprimer à l'autre. Comment on l'exprime à l'autre, parce que sans vouloir l'imposer, le fait de dire ça peut blesser l'autre. Et ça, je pense que c'est important aussi, parce que dans notre manière de s'exprimer, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. On a nos idées et on y croit, c'est bien, hein. C'est aussi ce qui nous porte, et le fait de pouvoir l'exprimer, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Mais il faut faire attention à comment on l'exprime, parce qu'il y a quand même certaines idées qui peuvent blesser l'autre. Et c'est là aussi que se rompt un peu cette idée de vivre en paix, hein, finalement.
On en reviendra un peu plus tard au terme de cette émission concernant l'éducation des générations à venir, justement sur l'éducation à l'égalité homme-femme qui n'est pas encore acquise. Il y a de grands progrès à faire aussi bien dans la représentativité politique, dans la rémunération, dans l'accomplissement des tâches ménagères, sur plein de choses qui te semblent évidentes, Younes, mais qui ne sont pas acquises. Et comme le disait Design aussi, je crois, il ne faut pas se brusquer, accentuer les crispations qu'il peut y avoir du côté de certaines personnes. Il y a un travail d'éducation et de changement des mentalités qui est encore long à faire, qui n'est pas évident aussi si on recontextualise aussi cette égalité dans l'histoire. La contraception, c'était il n'y a pas si longtemps. Le droit à l'avortement, c'était il n'y a pas si longtemps. Le droit de vote, c'était il n'y a pas si longtemps. Et je crois que les générations de nos grands-parents ou arrière-grands-parents peut-être n'ont pas encore totalement saisi cette opportunité de se changer elle-même. On va bientôt poursuivre avec un slam de Design, mais avant, un avant-dernier extrait de cette revue de presse là, qui est pris dans Cosmopolitan. Alors il y a deux choses là. Il y a couple, j'ai décidé de le laisser s'occuper de tout et j'ai pas été déçu. Voilà. Vous lisez ce genre de...
Pas du tout.
De journaux,
pas
non.
Du tout.
Non, et vous, messieurs, non plus, non. En allant chez le dentiste, chez le docteur, des fois, non, ça. Non. Vous connaissez non. Pas, non. Ça vous intéresse
dommage.
Pas.
Dommage.
Vous lisez quoi? Vous lisez un peu de journaux, des fois?
La REP.
L'horoscope, amour.
C'est... Non, du tout.
Même pas, non. Oh.
Ils nous annoncent pas des bonnes choses en général, alors du coup.
En tout cas, moi, j'ai tas de choses à lire que des magazines en ce moment.
Oui, d'accord, évidemment.
Ouais, c'est si, pas... les médias indépendants, Bastamag, La Relève et La Peste,
ouais,
tout ça.
C'est pas mal.
Il y a des
ouais.
informations j'aime qui bien. Changent oui. de BFM et tout.
C'est
ça.
Vrai, évidemment, oui. On pourrait aussi citer Lundi Matin, par exemple, qui est pas mal aussi. Mm-hmm. Reporter, plein de médias alternatifs, La Plume Libre, Le Tigre, Article 11, mm-hmm. Article 1, etc., etc., etc. Acrimed aussi, qui fait de la critique des médias. Design,
oui.
C'est à ton tour de nous présenter ton slam.
Pour qu'à jamais vive le slam, déclame ton slam. Les populations pleurent tandis que les ordures dressées sur la voirie. Quand l'hôpital se moque de la charité depuis Jeanne et Bory. D'ailleurs, l'assurance maladie ne couvre plus de prise en charge. Et si ça te branche, fais un tour à Mindoubé et tu sauras ce qu'on appelle la décharge. L'ascenseur social est hors service, les issues de secours sont scellées à chaque étage. Depuis qu'ils ont mis l'accent sur la censure, les libertés sont prises en otage. Le tissu social se déchire davantage sous les coups de leur défaite à plate couture. C'est seulement lorsque le peuple va en découdre qu'ils prendront de bonnes mesures. Peut-être bien qu'après tout ceci, on continuera de dénoncer, pour leur faire comprendre que l'exercice du pouvoir a changé d'énoncé. Peut-être que votre candidat ne sera pas déclaré vainqueur même si vous l'élisez, mais cette fois-ci, le fin mot de l'histoire ne sortira pas de l'Élysée. Un peuple mis sur écoute qui n'est assurément pas écouté. Le progrès est boycotté, mais la peur a changé de côté. Ils investissent dans la haute surveillance par les services de renseignement, alors qu'il y a toujours un grand manque de R dans l'éducation et l'enseignement. Enfants et parents démissionnaires, État et parents démissionnaires, enfants en proie à l'école buissonnière, entre consommation de stupéfiants et position du missionnaire. Tout ceci est fait à dessein, doit-on vous faire un dessin? Ou bien êtes-vous trop occupé à téter les seins des saints? Bon sang, ouvrez vos yeux, activez vos sens. Tous ces actes étaient aussi mauvais que celui de sa naissance. Comment conjuguer nos efforts lorsqu'abandonner est le verbe? S'ils placent la charrue avant, c'est parce que leur bœuf fume de l'herbe. Ainsi, ils veulent tout soustraire mais ne sont même pas forts en calcul, puisqu'ils comptent continuer d'avancer par la force de recul. En vérité, même mentir, ils ne savent plus. Ils n'ont plus rien à proposer. Pas de prospérité que de l'austérité pour la postérité militaire. Pour la justice, sois un militant. Qu'attends-tu pour tirer sur le tyran ? L'ennemi doit partir. Tu en as marre, tire. L'amour est une arme qui ne fait pas de martyr. Il faut combattre le pavé et qu'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on fasse bouger les lignes de cette pseudo-stabilité. Citoyens, la fin ne justifie pas les moyens, car s'il y a moyen, on gaspille. Le pays est pillé et les salaires sont impayés. Ils ont touché tous les fonds, ce n'est pas une caricature à la paillée. Pays aux pièces détachées, les moins chères du marché, et aux mentalités ébongili, on se demande ce qui n'a pas marché. Patriote je suis, lié à ma terre. Le bois dont jamais vos doigts ne pourront arracher l'écorce. Honte à vous, pauvres éternels esclaves, banques à enrichir l'écorce. Ça devient long, mais le temps est court pour se permettre des courses. Oyez, oyez, ils quadrillent toutes nos capitales pour un jeu de chaises musicales. Or, la politique de la chaise vide les comptes déjà pas très pleins. Comprenez qu'ici, c'est du mauvais cœur et de la mauvaise gouvernance dont on se plaint. Ils ne savent que dormir dans les chambres et ils nous parlent de parlement, alors que la liberté par-ci et l'injustice par-là courent anticonstitutionnellement, finalement. Y aurait-il accélération dans la surface de dépravation, où seuls les interrogatoires sanctionnent les interrogations ? Trêve de distraction. Il y a encore trop de frustration, trop de séquestration et d'arbitraires arrestations. Arrêt à la station chauffeur. Notre voiture est en manque d'essence. Le communiqué annonce une pénurie de manioc, de jugeote et d'essence.
Merci Design. On arrive au terme de notre émission. Une dernière lecture pour la route, hein, puisqu'on parlait, on a beaucoup parlé sexualité, puis après le changement des mentalités aussi. Toujours dans ce même magazine Elle, hein, il y a un article que j'ai repéré. Comment parler à nos filles Girls and Sex ? Le best-seller Girls and Sex, qui dévoile la vraie sexualité des jeunes filles américaines, est une immersion dans l'intimité des chambres d'adolescents et sur le rapport complexe à leur sexualité. Collaboratrice au New York Times, la journaliste Peggy Orenstein a entrepris d'interroger pour cela 70 jeunes filles entre 15 et 20 ans à travers les États-Unis. Ce qu'on apprend dans cette enquête, c'est que la nouvelle génération a intégré les codes des réseaux sociaux et celle des sextos, que la pornographie fait partie intégrante de leur éducation sexuelle et que la fellation est devenue le passage obligé d'une relation directement après le premier baiser. La cause de cette nouvelle manière de concevoir les relations sexuelles ? Alors, que faut-il dire à nos filles ? Aux parents inquiets qui se sentent parfois démunis face à leurs adolescents, Peggy Orenstein préconise de ne pas déléguer l'éducation sexuelle à l'école, mais de libérer la parole au sein des familles. Elle donne l'exemple des jeunes néerlandaises qui parlent très librement avec leur mère. Al Pacina, tu es éducatrice spécialisée.
Tout à fait.
Est-ce que vous pensez, alors je m'adresse à toi mais aux autres également, qu'on peut parler sexualité avec nos parents ?
Ça devrait, pour moi.
On devrait, oui. Design dit non.
On ne devrait pas.
On ne devrait pas. Alicia ?
Si on devrait, ouais.
On
pas,
devrait.
Pas forcément dans les détails, mais sur, rien que pour se protéger, les règles de base de sexualité, se protéger, même l'éducation, et que les parents nous encouragent à nous connaître nous-mêmes pour pas justement faire de bêtises, enfin pas faire de choses qu'on regretterait, qui toucheraient notre intégrité, le respect de nous-mêmes. Donc je trouve que c'est important qu'on apprenne à se respecter nous-mêmes, donc que nos parents nous apprennent ça.
Younes, on devrait pas ?
Moi j'ai pas encore d'enfant, déjà.
Mais tu es un enfant, et t'as des parents.
Non, mais je pense que demain, si j'ai vraiment des enfants, je pense que j'en parlerai au détail, qui les mettent à l'aise, en fait. Je ne vais pas les mettre mal à l'aise, mais j'en parlerai. C'est quelque chose que depuis tout petit, en fait, je vais leur expliquer ce que ça veut dire et que peut-être pas dans les détails, mais...
Comme disait Alicia.
Mais j'aimerais bien qu'ils me racontent tout, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'ils me racontent tout. Hein. Franchement, hein, c'est pas pour les surveiller, mais c'est pour leur intérêt, pour leur bien. Après, je ne dis pas, je ne vais pas chercher non plus, mais j'aimerais bien.
Alors, excuse-moi d'être indiscret, mais oui. Ça t'a manqué que tes parents ne te demandent pas tout ? Est-ce que tu as tout dit à tes parents ?
Non, du tout.
Est-ce que tu en as eu besoin ?
J'ai pas eu besoin de tout dire à mes parents. Après, je ne vous cache pas, il y avait certaines situations où j'aurais bien aimé avoir plus de, de détails ou d'informations, on peut dire, sur certaines situations. Après, voilà, je me suis sorti quand même. Mais bon.
Alors, tu sais, il y a des choses que j'aurais pas pu te dire. C'est qu'en 98, hein, que le clitoris a été disséqué. Ils avaient peut-être pas la réponse. Ben, design. Alors, non, faut pas en parler.
Oui, oui. En fait, faut pas en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je le dis par ma propre expérience. En fait, moi, j'ai vécu dans une société africaine qui est assez bien structurée, familialement parlant. Donc, nous, pour parler, par exemple, d'éducation sexuelle, c'est pas comme un programme, c'est pas comme quelque chose où on va s'asseoir au salon avec maman ou papa pour en discuter, en fait. Il faut savoir que dans notre société, pour parler d'éducation sexuelle, ça se fait, par exemple, pour les hommes, ça se fait dans une phase qu'on appelle l'initiation, par exemple, donc le passage de l'enfant, de l'âge de l'enfant à l'adolescence, par exemple. L'enfant subit toute une série de formations spirituelles, physiques, mais dans le cadre strictement réservé aux hommes, et c'est la même chose pour les femmes. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait dans notre société. Donc quand on parle de sexualité, c'est-à-dire que maman ne peut pas venir me parler à moi, tu vas aller chez ta copine, voilà comment ça va se passer. Non, ça c'est quelque chose qui se fait en griffe à huis clos, et c'est comme ça que c'est fait. Donc parler de sexualité entre parents, la plupart du temps, c'est même pas le parent lui-même qui t'en parle. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, les maîtres qui font des initiations et tout ça, qui entraînent, tu n'es pas le seul enfant, vous êtes 6-7 du quartier, du village ou de différentes familles, et qui prenaient la même éducation en fait. Donc que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur d'autres plans, mais c'est dans un cadre bien spécifique. Voilà, c'est pourquoi moi je disais... C'est pas comme ça que nous on conçoit les choses.
Ça rejoint l'article, puisque là ça parle de jeunes filles qui parlent à leur mère, entre même sexe en fait, les jeunes filles avec leur mère et les jeunes garçons avec. Enfin, les jeunes filles avec des femmes et les jeunes garçons avec des hommes. C'est. Pardon.
C'est pas forcément le fait d'en parler aux parents, mais d'en parler à quelqu'un d'autre. Mais l'important, c'est qu'il y ait un échange et un dialogue. Donc oui, ce que tu dis, c'est tout à fait une éducation. C'est. Ouais. C'est pas la même éducation, mais c'est une éducation, du coup. Pour moi, l'important, c'est qu'il y ait du dialogue pour qu'on puisse savoir se respecter les uns les autres. Et voilà.
Younes, est-ce que, par exemple, en tant que hypothétique futur père, sans que ce soit que tes enfants n'en parlent peut-être pas avec toi, mais avec des adultes du même sexe, enfin avec si c'est une fille avec une femme ou si c'est un garçon avec un homme
Non, ça me dérange. Ça ne me dérange pas, il suffit juste d'en parler. Mmh. Il faut en parler. Après, j'ai dit parler à mes enfants, certes, mais après, s'ils trouvent leur confort ou ils se sentent à l'aise avec d'autres personnes, pourquoi pas.
Je crois que ça sera la conclusion, enfin le message de cette émission, parce que vous avez remarqué, on en a beaucoup parlé. Il faut en parler.
Ah oui, oui.
De tout ça, faut en parler. Il y a peut-être y a eu trop de tabous. On l'a vu notamment du côté des femmes. C'est comme l'analyse que t'en faisais, Al Pacino. C'est peut-être pas forcément qu'elles sont plus nombreuses à déclarer qu'elles usent de sex toys ou qu'elles regardent de la pornographie. C'est qu'elles ont moins peur d'en parler. Enfin, je sais pas, on avait commencé l'émission sur ça. Et peut-être qu'on conclura là-dessus en disant qu'il faut en parler un peu plus. Avant que tu nous fasses un slam, Al Pacino, puisque tu es éducatrice spécialisée, j'aimerais bien savoir si dans le cadre de tes fonctions, de tes missions que tu occupes auprès de publics très variés, tu en viens à parler de la liberté, je ne sais pas, la liberté sexuelle auprès des garçons ou des filles ou des hommes et des femmes. Est-ce que tu fais un accompagnement?
Oui, c'est tout à fait possible. On est beaucoup dans de l'accompagnement au quotidien. Après, nos missions, elles vont en partie varier selon les structures. Hein, ça va quand même dépendre de là où on travaille et du public avec lequel on travaille, parce qu'on peut travailler. Il y a trois grands champs, en fait, de l'éducation spécialisée, qui sont le handicap, la protection de l'enfance et l'insertion, réinsertion sociale. Et du coup, je pense que vous imaginez bien que selon le public avec lequel on est, déjà, les problématiques vont pas être les mêmes. Et du coup, le lien à la sexualité n'est pas du coup non plus le même et ne doit pas être abordé de la même manière. Par exemple, avec un public adolescent, c'est important de pouvoir en parler, parce que justement, des fois, c'est pas fait à la maison. Après, on n'est pas là pour remplacer le rôle du parent ou quoi. Nous, on est vraiment des accompagnants. Mais des fois, on peut être la personne à qui l'enfant va avoir besoin d'en parler, enfin l'adolescent ou même l'adulte. Hein. Les personnes en situation de handicap, par exemple, aussi, il y a la question de la liberté sexuelle chez les personnes en situation de handicap, qu'ils soient physiques ou mentales, qui est quand même une question d'actualité qui est très compliquée, une réalité des institutions aussi qui est très très compliquée à vivre. Hein. Comment on met en place, est-ce qu'on met en place des moyens pour que ces personnes aient accès à la sexualité et puis aussi ce regard qu'on porte, en fait, mine de rien, sur les publics en difficulté. Se dire, est-ce qu'ils ont le droit à la sexualité? Il y a quelque chose qui est quand même beaucoup d'actualité et il y en a plein qui diraient non. Hein. Il y en a plein qui aujourd'hui disent que, bah non quoi, ils sont en difficulté, donc non, ils peuvent pas. La sexualité assistée, hors de question. Enfin, ouais, il y a beaucoup de ça et je pense que ça fait partie de notre rôle que de voir accompagner ou d'orienter. Parce qu'on n'est pas forcément toujours les plus à même de pouvoir parler de certaines situations. Et après, ça peut être orienté vers des structures. Par exemple, le planning familial, il y a des éducateurs qui travaillent au planning familial, il faut le savoir. Après, ils n'ont pas la fiche de poste éducateur spécialisé. Mais en fait, c'est basé sur les ressources de chacun. Donc, l'éducateur spécialisé peut jouer ce rôle.
Bon, on arrive au terme de cette émission. S'il fallait conclure, en faire une synthèse, je rappellerai que le sida tue encore, le VIH tue encore beaucoup de personnes, que le vaccin n'existe pas, même s'il y a des progrès qui ont été faits, que le port du préservatif s'impose quand on ne connaît pas, à moins d'avoir une relation fiable et puis d'être passé chez le docteur. Voilà, ce sera la grande morale physique. Et puis d'un point de vue plus spirituel, moins anxiogène, parce que voilà, le VIH tue encore, je le disais, eh ben, il faut en parler. Il y a plein de sujets, là tu viens encore parler, par exemple les personnes en situation de handicap, il y a plein de sujets qui ont trait à la sexualité dont il faut parler, c'est important d'en parler. Voilà, on va conclure en slam avec Al Pacino.
Je porte au creux de mes bras la misère, celle que connaissent les misérables de Victor Hugo. Je porte au creux de mes bras la guerre, celle qui sera la bombe qui fera naître le chaos. Car à chaque mort, pardon, il y a naissance. Car à chaque époque, sa renaissance. Car apparemment, on peut renaître de ses cendres. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Tout s'écrit, tout s'opère, alors tout se déforme. On déforme les mots et c'est parfois là qu'ils prennent vie, parce que la feuille froissée, mouillée ou brûlée définit bien mieux nos mots. On déforme les mots et c'est comme ça que naît l'envie. On déforme et on oublie nos mots et c'est comme ça que renaît la vie. La vie est une bouffée d'air suffocant. On ne sait bouffer de l'air mais on voudrait croquer la vie à pleines dents. Moi, je tiens la misère au creux de mes bras. Je tiens le résultat non pas d'une équation mathématique, mais celui d'un désir, d'un rêve ou d'un viol pathétique. Je tiens ce qui a été porté pendant 9 mois et qu'on ne considère seulement qu'une fois qu'il se voit. Je tiens dans les bras cette miniature qui un jour grandira. Même si minuscule, on peut être source de géantes responsabilités. Pensiez-vous que l'enfant sans parents ne pourrait se développer? Pensiez-vous qu'il pourrait vivre de lui-même en sortant d'ici? Même l'oisillon est nourri et grandit avant de quitter le nid. Je suis celle qui te suit telle que je suis, même si à de maintes reprises tu aurais préféré que je te fuis. Je suis celle qui bouche le trou de ton seau lorsqu'il fuit, avec mes outils. Je suis celle qui essuie la larme de ta joue qui s'enfuit. J'utilise ces outils que l'on appelle pédagogiques, mais je ne suis que la pédale dotée de logique. Je suis celle qui te raconte une histoire pour t'endormir, même si la tienne me donne parfois envie de vomir. Je suis celle qui lit ses cours en espérant trouver une réponse, mais je sais que la vie suit son cours et qu'elle n'attend pas de bonnes réponses. Pas de bonnes réponses pour agir, pas de mauvaises réponses pour rougir. Alors je deviens le lion et je suis prête à rugir, pour t'accompagner à surmonter ton chemin, pour t'accompagner à démonter ce foutu destin. Celui qui dit qu'un enfant violé violera ses enfants, celui qui dit qu'un ado handicapé handicapera sa maman. Sur le mur, je n'écrirai pas liberté. Je suis au pied du mur et il m'est parfois difficile d'avancer. Alors je n'écris rien mais j'imagine les couleurs, je vois celles qui teintent ta vie de douleur. Je verrai bien ici un peu de blanc pour cacher tes bleus, un peu de jaune pour ensoleiller ton quotidien. Un beau mélange pour nous unir dans ce combat à deux. Un arc-en-ciel de toutes les couleurs pour te rappeler les tiens, d'où tu viens. Mais d'où viens-tu et où vas-tu ? Je tends la main, celle d'une professionnelle engagée dans son métier. Je tends la main, celle d'une femme dont l'empathie et la relation sont ses alliés. Au dos du mur, de l'autre côté, celui qu'on ne voit pas. J'y écrirai « Éducation spécialisée » et « Hashtag Al Pacino ».
Cette émission est terminée. Merci à tous d'être venus développer votre art en direct derrière les micros de Radio Campus. Donc cette émission a été faite avec Alicia, Al Pacino, Design et Younes. Bonne continuation à tous.
Merci.
Bonne soirée.
Merci,
merci à toi.
Bondi Bloc Café. www.bondibloccentre.fr